Nous allons démarrer ce sport matin, dimanche dernier de l'année, avec bien sûr l'événement cet après-midi, la finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et la France. Un invité de marque pour évoquer cette rencontre et plus globalement cette Coupe du Monde 2022. Le journaliste Jean-Michel Rouet avec nous dans quelques secondes en direct. En basket, Cholet s'est largement imposé hier soir face à Dijon. La rencontre était à vivre avec nous sur Colline. Victoire 107-79. Le débrief complet dans quelques minutes. Et puis, à la fin de l'émission, nous reviendrons avec Vincent Noris sur la corrida de Courlay qui avait lieu hier. La météo de votre dimanche, domination des nuages. Ce dimanche, si la matinée est sèche, on attend de la pluie pour cet après-midi. Le vent de sud avec des rafales autour de 50 km/h cet après-midi fait remonter le mercure. Nous avons 1 à 3 degrés environ ce matin, 6 à 8 pour les maximales.
Sport matin dimanche avec Cyrière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
C'est l'événement cet après-midi et pour évoquer cette finale de la Coupe du Monde 2022 France-Argentine, il nous fait l'amitié de passer quelques minutes avec nous sur Colline. Jean-Michel Rouet, bonjour.
Bonjour David.
On est très content Jean-Michel de vous avoir avec nous. Je vous rappelle que vous êtes originaire de Bressuire, vous avez été longtemps au journal L'Équipe en tant que rédacteur en chef et puis vous êtes aussi membre de comité de direction de Chambly, équipe qui évolue en National 2. J'avais envie de savoir justement un petit peu comment s'était passé puisque vous êtes membre de comité de direction de Chambly, cette première partie de saison en quelques mots.
Écoutez, on est en train de digérer deux relégations consécutives, puisqu'on était en Ligue 2 il y a deux ans, en National la saison dernière. C'était un choc pour tout le club. Donc il y a un très gros travail de reconstruction. On est reparti en N2 avec 21 nouveaux joueurs, deux joueurs seulement de la saison dernière. Donc la première partie de saison est relativement satisfaisante, puisqu'on est quatrième de notre groupe, disons ouest, où on joue avec les clubs bretons et les clubs normands. Donc voilà, il y a deux équipes qui dominent nettement dans notre groupe, c'est Rouen et le Racing, on est juste derrière. Voilà, c'est plutôt satisfaisant.
Alors, on laisse de côté, si vous voulez bien, le FC Chambly pour s'intéresser. On n'est pas là pour ça, mais j'en profitais quand même, puisque vous êtes avec
nous. C'est gentil.
Hein, pour parler du FC Chambly. Donc, on revient bien sûr à ce qui nous intéresse ce matin, c'est cette Coupe du Monde et cette finale cet après-midi. Un mot d'abord, peut-être sur la petite finale, vous l'avez regardé hier, Croatie-Maroc?
Oui, j'ai trouvé que c'était un excellent match.
Ouais, c'est vrai, hein, moi aussi, ouais.
On a vu notamment deux très très beaux buts croates, une combinaison sans coup franc absolument formidable sur le premier but. C'est un match qui est souvent dénigré en disant ça sert à rien à la troisième place. On se souvient pas qui a terminé troisième, mais je pense que les Croates eux vont s'en souvenir et que les Marocains auraient aimé s'en souvenir parce que les deux équipes ont tout donné. C'est pas facile effectivement d'essayer de rebondir comme ça après de grosses déceptions de demi-finale. Mais je trouvais que c'était vraiment un excellent match entre deux nations, je dirais, surprenantes. La Croatie, c'est comme une nation de football incroyable pour un pays de 4 millions d'habitants.
Ouais, c'est vrai.
Et puis le Maroc, voilà, c'est l'émergence de l'Afrique, enfin. Et donc, j'ai passé un bon après-midi en regardant ce match-là.
Ouais, puis on est content quand même pour le Maroc. Alors même s'ils finissent au pied du podium, c'est vrai que c'est important.
Oui, mais non, c'est faut dire la vérité, hein, c'est une équipe qu'on n'avait pas trop vu venir, qui avait changé de sélectionneur juste avant la compétition, puisque c'est Vaïd Halilhodžić qui les avait qualifiés. Ils ont mis Walid Regragui, que je connais un peu d'ailleurs, parce que il est originaire de la région parisienne et de Corbeil-Essonne, il a joué en région parisienne. Je l'ai croisé plusieurs fois. Pour ses débuts à la tête de cette sélection, il a vraiment fait un travail formidable. Et puis, on a appris à découvrir certains joueurs, notamment ce jeune Ounaï, là, qui joue au SCO d'Angers, qui joue en National il y a encore deux ans à Avranches. Cette équipe a vraiment fait plaisir par la qualité de son jeu, parce que j'ai trouvé que c'était une équipe qui, vraiment, techniquement, était très bonne. Et il faut avouer d'ailleurs que l'an demi-finale nous a bien fait souffrir. On est quand même passé tout près d'une grosse déception, tellement ils nous ont dominé par exemple en deuxième mi-temps.
Allez, on y va, on parle maintenant donc de cette fameuse finale cet après-midi France-Argentine. On va évoquer Jean-Michel le parcours des deux équipes. On commence par l'adversaire, l'Argentine, qui avait bien mal débuté, hein, avec une défaite. C'était face à l'Arabie Saoudite, si je me souviens bien. Ça fait loin maintenant, c'était hier mois.
oui, ça fait loin. On pensait d'ailleurs que c'était presque rédhibitoire pour cette équipe d'Argentine qui menait au score, qui avait probablement cru que ça serait facile, qui s'était déconcentré et qui avait pris 2 buts coup sur coup par cette équipe surprenante d'Arabie Saoudite et son sélectionneur français Hervé Renard. Donc cette défaite a obligé ensuite l'Argentine à jouer des matchs couperets. Parce que par exemple quand ils ont joué contre le Mexique, une défaite aurait été éliminatoire. Donc en fait, eux, ils ont quasiment fait des 16e, des 32e, des 16e de finale avant de rentrer directement dans le tableau final. Donc c'est une équipe qui est sous pression depuis le début de la compétition et qui est montée en régime. Alors je dois vous avouer que comme tout le monde, j'ai une très très grande admiration pour Lionel Messi. Alors on voit bien que le monde entier, à part en France, rêve de voir Lionel Messi soulever enfin la Coupe du Monde. C'est vrai que sur l'ensemble de son œuvre, ça serait plus que mérité. Bon, nous en France, on n'a pas envie de voir ça. Mais moi, j'ai pas envie de voir. Honnêtement, c'est une équipe qui me perturbe un peu parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de provocations. J'ai vu tous leurs matchs et moi, pour être très franc, c'est quasiment un miracle qu'ils aient terminé tous les matchs à 11. Parce que, notamment contre les Pays-Bas, je ne sais pas si vous vous souvenez du tacle abominable de l'ex-parisien Paredes, qui avait ensuite, avec beaucoup d'élégance, tiré à bout portant sur le banc de touche néerlandais et qui s'en était sorti avec un carton jaune. Donc, c'est une équipe qui est assez provocatrice, mais ça, c'est un peu historique, c'est la grinta, c'est l'engagement. Bon, c'est une équipe aujourd'hui qui, je dirais quelque part, qui a un génie et puis 10 soldats qui sont prêts à mourir sur le terrain. Et pour moi, je pense que l'arbitrage sera une composante importante de cette finale.
Et nos Bleus, alors, avec tous ces absents, on pense à Pogba, Kanté, Benzema, qui ne sont pas là. Vous pensez vraiment qu'ils arriveraient jusqu'en finale?
Ah non. Non, franchement, je pensais que arriver au demi aurait été déjà une très grande performance. Non, c'est fantastique. Il faut avouer que ce qu'a fait le sélectionneur avec cet effectif effectivement considérablement diminué est exceptionnel. Donc cette équipe, parfois, on ne sait pas trop quoi en penser parce que elle affiche certaines faiblesses. On l'a vu contre l'Angleterre où la deuxième mi-temps était quand même très difficile. On a fini par gagner sur ce but d'Olivier Giroud en pleine domination anglaise. Contre le Maroc, idem, la deuxième mi-temps était quand même très très compliquée. Le Maroc a été tout près de revenir à un but partout. Et là, on ne sait pas ce qui aurait pu se produire. Mais c'est une équipe qui trouve toujours la solution. Et ça, c'est ce qui nous fait y croire, c'est que voilà, il y a toujours une solution, ça peut être Giroud, cette économie contre le Maroc pour nous délivrer. Donc c'est une équipe qui a un fantastique esprit de corps. Et puis qui me semble aussi, il y a 11 de base qui s'est très vite détaché. Il y a 3 ou 4 joueurs qui peuvent intervenir à tout moment. Après on voit bien que voilà, c'est le bout du banc est pas fait pour jouer. Et quelque part, ça contribue peut-être au climat qui y a dans cette équipe-là. Parce que quand vous avez une sélection, vous avez 23 joueurs qui s'estiment capables de jouer, et le 22e et le 23e, quand ils ne jouent pas, au bout du banc, il fait la gueule, il nuit à l'ambiance générale. Là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un groupe, un formidable groupe, et la question de savoir s'ils vont nous offrir un dernier grand plaisir. Je sens ça parfaitement possible. On connaît nos armes. On a un joueur hors norme qui lui peut gagner. Messi n'a encore pas gagné la Coupe du Monde, mais Mbappé peut gagner sa deuxième Coupe du Monde à 24 ans. Ça serait quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc voilà, c'est un match très très ouvert. Alors paradoxalement, je pense qu'on a un peu plus d'expérience des grandes compétitions que l'Argentine, même si l'Argentine est Il faut pas oublier qu'elle est championne d'Amérique du Sud et qu'elle a été championne d'Amérique du Sud en battant le Brésil au Brésil, ce qui est quand même pas rien. Donc cette équipe-là a aussi un petit socle de base intéressant. Mais voilà, c'est un match très très ouvert et une des grandes questions aussi, c'est quelles sont les conséquences de ce fameux virus dont on parle depuis 2 ou 3 jours. Parce que là, évidemment, on ne peut pas se permettre d'avoir des joueurs clés diminués. Là, ça serait vraiment trop pénalisant.
Jean-Michel, on se rappelle justement du huitième de finale spectaculaire. Il y a 4 ans, les Bleus l'avaient emporté 4-3 face à l'Argentine. On peut attendre le même match cet après-midi ou pas du tout?
Écoutez, j'en doute forcément. Moi, j'en doute forcément. Vous voyez, une chose qui me frappe, c'est deux équipes qui n'aiment pas avoir le ballon. On l'a bien vu parce qu'on dit l'Argentine a écrasé la Croatie 3-0. Ouais, c'est vrai que l'Argentine a écrasé la Croatie 3-0, mais l'Argentine a laissé le ballon toute la première demi-heure à la Croatie, il faut s'en souvenir, avant de lui porter deux contre décisifs. Donc il y avait 2-0 et le match était plié. Et je pense que là, ça va être aussi une espèce de partie de poker menteur. Même la France, on l'a bien vu. Le Maroc était l'équipe qui avait le moins de possession depuis le début de la Coupe du Monde, qui est une équipe qui joue en contre aussi. Et l'équipe de France a réussi à laisser le ballon au Maroc qui s'est fait aussi contrer. Donc je pense pas que ça soit un match aussi spectaculaire. Et puis, il y a 4 ans, qu'il y a des Mbappé, on le découvre au niveau international. Enfin, nous, on ne le découvrait pas, mais le monde le découvrait. Il avait fait un match stratosphérique. On peut penser qu'il lui prépare un traitement de faveur cet après-midi. Et je pense qu'il y aura beaucoup moins de liberté de mouvement, même si, vu la qualité du joueur, c'est lui qui peut faire aussi la différence. Mais non, globalement, je m'attends à un match très, 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 très heurté et qui va jouer sur très peu de choses.
Comment vous allez vivre ce match? En famille, avec les amis?
Voilà, en famille avec mon fils et des amis de mon fils. Oui, exactement. Voilà. Au chaud, parce qu'en plus, bon, et, parce que même s'il y avait des fan zones, là, chez moi, ce matin, il fait -6. donc, j'avais sur les grands écrans dehors. Voilà.
Juste un petit mot rapide sur l'arbitrage. Comment vous l'avez trouvé sur cette Coupe du Monde?
La chose qui a surtout à faire trouver, globalement, il n'y a pas eu d'énormes polémiques. Ça, c'est bon signe. Voilà. Donc, il y a le Maroc a mal vécu sa défaite contre la France. Il a dit qu'il y avait deux pénalties qui avaient été sifflées. Mais globalement, l'arbitrage était bon, je trouve. Mais alors, moi, ce qui me perturbe, par contre, c'est qu'on n'y applique pas du tout les mêmes règles, par exemple, qu'en Ligue 1. Vous avez vu, il n'y a pas eu de carton rouge, ou quasiment pas, parce que, clairement, les consignes sont que les équipes terminent à 11 contre 11. Les fautes qui amènent des cartons rouges en Ligue 1 amènent là au pire des cartons jaunes, et là on a l'impression encore une fois que c'est le même sport qui est joué avec des règles différentes. Et moi, c'est ce qui m'inquiète un peu. L'arbitre polonais qui est en charge aujourd'hui est très très bon, on le voit en Ligue des Champions depuis des années, c'est vraiment un très bon arbitre. Après, moi je peux penser que les Argentins vont le tester très vite, voilà, en faisant une ou deux grosses fautes pour commencer, voir s'il sort les cartons ou pas. S'il ne sort pas les cartons, on peut être parti pour un match, encore une fois, très, très heurté. Mais globalement, l'arbitre était bon. Et en tous les cas, pas influé sur les résultats. Et d'ailleurs, globalement aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a fait relativement peu appel à la VAR, relativement peu par rapport, encore une fois, à ce qu'on voit en Ligue 1. En Ligue 1, vous voyez des interventions de la VAR 2, 3, 4 fois par match. Là, la VAR est consultée qu'en cas vraiment d'extrême doute. Voilà, donc ça a donné des matchs assez ouverts et donc en tous les cas sans polémique majeure. Et à l'arrivée, c'est quand même une très bonne chose.
Bon, vous savez ce que je vais vous demander, Jean-Michel, pour terminer?
Oui, je m'en doute. Oui.
Un petit pronom. On se lance.
Moi, je pense que c'est un match qui peut aller. Je vois bien, par exemple, un score d'un but partout et une prolongation derrière. Voilà. Je pense que c'est un match qui va jouer sur très peu de choses. Alors, je vais vous dire 2-1 pour la France après prolongation.
D'accord. Voilà. OK, c'est noté. Merci, Jean-Michel. C'était un réel plaisir de vous avoir avec nous pour parler de ce France-Argentine.
C'était réciproque.
Merci beaucoup.
David.
Merci, Jean-Michel. À bientôt.
Bon dimanche à tous.
Jean-Michel Rouet, originaire de Bressuire, grande plume du sport, qui a été longtemps au journal L'Équipe en tant que rédacteur en chef. Merci beaucoup, Jean-Michel. Et bonne finale. Et allez, les Bleus, bien sûr. J'ai quelques résultats de foot pour terminer cette première partie de ce dernier sport matin dimanche de l'année, avec en championnat de National. Bien, le match Cholet-Red Star qui devait se jouer vendredi qui a été reporté en National 2. Notez que les Herbiers ont perdu à domicile hier face à Chamalières qui est venu s'imposer 1-0. Les Herbretais, deuxième, perdent un peu le contact avec le leader Lyon. Il y a désormais 5 points entre les deux. La National 3, Nouvelle-Aquitaine avec deux matchs qui se jouaient hier. La victoire de Pau à Châtellerault, 3-1. Lège-Cap-Ferré a dominé Porte-Entre-deux-Mers également sur ce score de 3-1. National 3, Pays de la Loire avec vendredi La Roche VF qui avait dominé la réserve du Mans 2-0. Hier après-midi, notez la victoire de Beaucouzé face à Laval 1-0. Le match Chaland, La Roche-Ezo a été reporté. Fontenay et Pouzoche se quittent sur un nul, un but partout. La victoire de Saint-Nazaire 2-0 face à Changé. Vertou a battu Saint-Philbert 4-1. Et puis victoire de Sablé face au Poiré 3-1. La régionale 1 avec un match reporté entre Parthenay-Viennet et Buxerolles hier après-midi. Chauray s'est imposé dans le derby à Niort-Saint-Liguer 3-1. Et puis match nul de partout entre Rochefort et Saint-Jean-d'Angély. La régionale 2 avec un autre match reporté devait se jouer Saint-Savin-Saint-Germain et Chiré-Saint-Gelais hier après-midi. Match donc reporté. Et puis un petit mot de départemental 1 avec la victoire d'Hervaux-Saint-Jean face au Pays Argentonais 2-1. Celle de Bressuire face à Terve 4-2. Et puis Neuilly-Aubier qui domine Mosée sur le Mignon 2-0. La page de pub, on revient, on parlera basket, gros débrief, on reviendra en long, en large, en travers sur ce CB Dijon hier soir avec la grosse victoire de Cholet Basket. À tout de suite. Le basket, et on attendait donc un gros match entre Cholet et Dijon ce samedi. Gros match il y a eu, notamment sur l'intensité, mais gros score aussi puisque CB s'est finalement imposé 107-79. Écoutez l'analyse du coach de CB, Laurent Villa.
On voulait être agressif et il y avait un plan de jeu. Laisser jouer ce qu'ils aiment avec voilà, l'ensemble des formes de jeu qu'ils ont, la fluidité dans leur jeu. Bien entendu, il faut les contrarier, sinon ils font leur match. Il y a eu cette dimension de dureté, il y a eu aussi cette activité autour de la balle, et puis sur certains joueurs, la volonté de stopper leur drive, d'empêcher l'accès au cercle. Bon, c'était vraiment un très bon état d'esprit, une très bonne débauche d'énergie. Et franchement, chapeau. L'équipe, parce que la clé c'est le mental quoi, de l'équipe, c'est l'état d'esprit que l'on a, cette ambition, cette volonté de faire bien les choses en équipe. Et voilà, malgré les péripéties, on garde le plan en tête et on avance. Et franchement, c'est louable quoi, parce que c'est des gros efforts. Faire le match qu'on a fait en Allemagne, revenir ici à pas d'heure, se remettre au travail pour préparer le match, qui était bien sûr un match important, et réussir à faire 40 minutes d'une défense incroyable, c'est voilà, chapeau. On s'attendait à un match difficile, ça c'est sûr. Et le fait de se le rendre facile en deuxième mi-temps, c'est qu'on a réussi à les faire plier, ça veut dire qu'on avait une détermination plus forte qu'eux, et que notre état d'esprit est le bon en ce moment.
Laurent Villa, le coach de CB, le plan de jeu a été parfaitement respecté, nous confiait l'ailier expérimenté Kim Tilly.
On a vraiment réussi à mettre en place le plan de jeu, comme je disais, et qui était de jouer agressif, de jouer dur, de leur faire faire des choses qu'ils ne veulent pas faire, et d'avoir une défense compacte. Donc on a essayé de protéger la raquette, ils ont eu quelques tirs ouverts par-ci par-là, mais bon, c'est quand tu protèges la raquette, c'est comme ça que ça se passe. Des fois, il y a des tirs ouverts. Mais bon, on a réussi à être rapide dans les rotations, à leur faire faire des pénétrations, des balles perdues, et des choses comme ça. Et puis, on a eu beaucoup de contre-attaques et beaucoup de transitions, et ça a permis de nous donner de la liberté en attaque aussi. Ils ont essayé de faire de la zone en deuxième mi-temps, et on l'a bien attaqué. Et on a mis des shoots, et donc du coup, ils ont arrêté. Et voilà, ouais, c'est surtout notre défense qu'on a retrouvée enfin aujourd'hui. Et ça, quand on défend dur comme ça, après, on a plus de liberté en attaque, on se sent mieux, et ça aide beaucoup quoi, d'être équilibré des deux côtés du terrain. Ils ont eu des difficultés aussi, parce qu'ensuite, ils ont perdu Alain Guay pour la deuxième mi-temps, donc ils n'avaient pas de rotation au poste 5, ils ont dû tenter des choses, ils ont fait, comme je disais, de la zone, ils switchaient partout, et puis nous, on a continué à être focus et agressif, provoquer des fautes, jouer à l'intérieur, jouer à l'extérieur, et jouer ensemble, et c'est ça qui a fait notre force aujourd'hui. Mais c'est vrai que Dijon a été touché en deuxième mi-temps, et c'était un peu compliqué pour eux. Et puis nous, on a provoqué beaucoup de fautes aussi. Ils ont trouvé une faille dans notre attaque, je parle de la défense de zone, et plusieurs équipes ont tenté à coup sur coup, parce qu'ils ont, bien sûr, ils font de la vidéo, ils voient ce qui se passe, donc, et là, je pense qu'on a fait un pas en avant dans notre attaque de zone, et surtout en défense, on était pas bon dans les duels, dans les aides, on était en retard, on était un peu un coup de mou, je sais pas comment l'expliquer. Et là, on a retrouvé notre équipe défensive. Il y a une ambiance de folie aujourd'hui encore à la mairie, pleine à craquer. Il faisait, je sais pas, moins 8 au début de l'échauffement sur le terrain. Et c'est rapidement, la salle s'est rapidement réchauffée et ça fait plaisir.
C'était Kim Tilly, l'ailier sur colline avec un score flatteur, donc un pour Cholet Basket, je vous rappelle, 107 à 79. Mais le swingman, celui qu'on appelle le swingman, c'est un peu celui qui fait tout hein, sur le terrain, qui sait tout faire en tout cas. Et le swingman Kellor Currier ne retient pas que le score.
C'est sûr que le score final, il fait plaisir à voir. Mais j'ai envie de retenir tous les efforts qu'on a fait sur tout au long du match, même quand le score était un petit peu plus serré. On a mis l'accent sur les efforts défensifs et la communication et l'agressivité, chose dont on manquait un petit peu récemment. On sentait qu'on était un peu dedans physiquement, et donc là c'est top qu'on ait répondu comme ça. On essaie d'être toujours tous sur la même longueur d'onde, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Il y a eu une petite période de creux physique, on va pas se mentir, mais le groupe a été solide. On a pu se retrouver et discuter de ce qu'on voulait faire sur la saison, et c'est important de reprendre confiance tout de suite et pas de s'enliser dans un cercle vicieux. Donc ouais, je suis très très content de la façon dont on a réagi. Je suis content si on gagne le respect de nos adversaires à travers ce genre de résultats. Mais nous, on veut jouer les matchs les uns après les autres. On se concentre sur nous et sur l'adversaire du moment. Et puis on verra au prochain match. Là, maintenant, on va pouvoir aborder sereinement le prochain match, et on verra où ça nous mène. Le championnat, il est plus homogène qu'il n'y paraît. On l'a vu, le Fos-sur-Mer, le Portel, ouais, c'est des équipes qui sont moins bien classées que Dijon, mais contre lesquelles on a beaucoup galéré. Donc cette victoire a fait beaucoup de bien, mais ça, je pense que ça ne donne pas spécialement d'avantage par rapport aux autres équipes, et il va falloir qu'on soit concentré à chaque match.
C'était Kellor Currier, le meneur Hugo Robineau, et lui satisfait du travail défensif de Cholet Basket.
Ouais, super, franchement, du début jusqu'à la fin, c'était top. On a mis l'intensité et ce 40 minutes, et c'est rare de faire ça. Donc non, c'était vraiment un super match, et c'est peut-être un match référence aussi sur la défense, je pense. C'est super intéressant ce qu'on a proposé, et notamment défensivement. On a vraiment bien communiqué sur le terrain, et c'était nettement mieux que sur les matchs précédents, notamment je pense au match du Portel. Et ça s'est vu aujourd'hui et ça a payé. Aujourd'hui, on fait partie des grosses équipes, on l'a montré encore ce soir. Et donc je pense qu'on fait que confirmer nos ambitions. On sait qu'on a un gros enchaînement de matchs là, avec le Valois et Limoges, et même en Fiba Europe Cup. Donc c'est bien de commencer comme ça, ça fait déjà un de prix, et c'est déjà ça. Et je pense que ça nous lance sur une bonne dynamique pour commencer cet enchaînement de matchs.
Hugo Robineau au micro, comme toutes les autres réactions, micro de François Larue. J'en profite aussi pour saluer Fabien Malinge, qui était aux côtés de François hier soir pour faire vivre donc cette rencontre entre Cholet Basket et Dijon, avec le gros score finalement pour Cholet qui s'impose 107 à 79. Le prochain match pour CB qui enchaîne avec la FIBA Europe Cup à nouveau, deuxième match de la deuxième phase de cette FIBA Europe Cup, ce sera mercredi, réception de l'équipe roumaine de Craiova, le match à 20h à vivre sur colline. Bien entendu, quelques résultats encore dans cette page basket avec la Pro B. Notez que Angers est allé s'imposer à Denain, 89 à 65, victoire de Boulazac sur le parquet de Nantes, 76-67, et puis La Rochelle qui va s'imposer à Orléans, 90-80. Et deux résultats de Ligue féminine pour saluer la victoire de La Roche-sur-Yon, les filles de La Roche-sur-Yon qui se sont imposées sur le parquet de Toulouse, 82 à 79. Défaite par contre des Angevines, Angers battu à Tarbes, 71 à 59. La corrida de Courlay, la 34e édition, c'était hier du côté de Courlay, donc évidemment avec Vincent Nori qui était sur place pour Colline et qui a pu recueillir différentes réactions. C'est Vincent qui animait cette corrida, et la victoire du bassiste Armand Marolo, que je vous propose d'écouter.
Sacrée course, ouais. Je savais qu'il y avait Mathieu et Benjamin qui étaient là pour faire une belle bataille toute la course. On s'est tiré de la bourre, on a pris des relais, on a fait 4 attaques dans les buzz, dans les relances, et c'était joué dans la côte, dans un petit chemin à 1,5 km de l'arrivée. Benjamin met une grosse attaque, j'arrive à suivre et j'arrive à passer devant à 800 mètres de la ligne. Mais ouais, c'était rude, c'était dur. très dur, je l'ai.
Une sacrée bataille.
C'est le mot exactement, c'est une belle bataille du départ jusqu'à l'arrivée. Et c'est pour ça que c'est beau l'athlète, parce que on s'est battu, on s'est tiré à la bourre tout le long, et à la fin, c'est ceux qui ont le plus de jambes qui gagnent. Courlay, il y a toute la famille qui vient à chaque fois encourager, donc c'est toujours un plaisir de courir ici. Il y a mon petit frère Anto qui fait premier tout à l'heure, j'ai le deuxième petit frère qui fait quatrième. Et là, je finis le travail de la famille, on va dire.
Le bassiste Armand Marolo qui s'impose donc sur ce 10 km de la 34e corrida. Corrida de Courlay avec un temps de 30 minutes 50 secondes. Je crois que j'ai fait une petite erreur sur le temps. Il me semble que c'est 30 minutes, 31 minutes et 50 secondes. On va y arriver. Et c'est le pensionnaire du Stade Niortais Triathlon, Guillaume Belgi, qui termine deuxième, avec lui un temps de 31 minutes 56.
C'est un résultat satisfaisant. Je venais là pour voir un petit peu, jouer à la bagarre s'il y en avait d'autres dans mes temps. C'est un peu compliqué de se situer, donc, parce que je fais une saison hivernale un peu relax, on va dire. Donc c'est cool, ça fait une bonne séance. Moi, je le prends comme ça, là, je me suis bien rentré dedans, donc ça fait... une bonne séance, gagner de la vitesse, peut-être que ça sera bénéfique pour Manier dans deux semaines. Donc voilà, tout en restant avec un objectif en tête qui est dans 5 mois, donc sans mettre tout en place pour réussir, quoi.
Ouais, toi maintenant c'est le triathlon, c'est ton domaine de prédilection, ça veut forcément dire de longues distances.
Ouais, c'est ça. Et puis l'an dernier, j'ai fait le marathon de Valence en 2h25. J'ai vraiment passé un cap l'an dernier. Mais il s'est avéré qu'au moment de repasser sur le triathlon, j'avais perdu beaucoup de puissance à vélo. Donc j'ai pas envie de reproduire cette erreur, la même erreur cette année.
C'était donc le pensionnaire du Stade Niortais Triathlon, Guillaume Belgi, qui termine donc deuxième de cette corrida de Courlay avec un temps de 31 minutes 56. Chez les féminines, c'est Flavie Brémeau de l'Entente des Mauges qui s'est imposée. Elle a réalisé un temps de 39 minutes et 37 secondes.
Je voulais absolument découvrir ce nouveau parcours qui est moins monotone, enfin très bien, aussi bien qu'avant, mais c'est moins monotone, j'aime bien.
Il y a Guillaume tout à l'heure, Guillaume Belgique, qui disait qu'il y avait une partie qui était peut-être un petit peu plus difficile par rapport à la route, là, où il y avait des cailloux.
Bon, ça monte un petit peu plus, mais non, franchement, moi j'aime bien.
Bon, première place, tu dis quoi de ton temps? Tu dis quoi?
Bon, je voulais le faire moins de 40 à la sensation, donc chose faite.
Avec des objectifs à venir ou pas maintenant que tu n'es plus licencié? Comment est-ce que tu gères ça?
Non, pas d'objectif. Pour le moment, je ne sais pas encore. Les cross, je ne pense pas, mais on ne sait jamais. C'est pas encore d'actualité, mais à voir.
Flavie Brémeau qui s'impose donc comme la première féminine sur cette corrida de Courlay. Allez, on revient quelques instants avec Guillaume Belgi qui nous parle de la finale de la Coupe du Monde cet après-midi.
Niveau patriotisme, mon cœur balance pour la France forcément. Après le dernier match de Messi, ça va être quelque chose qui, je pense, va faire pencher un petit peu la balance ou l'équilibrer, je ne sais pas, parce qu'on a vraiment une équipe très forte de ce que j'ai pu voir je regarde le résumé quand même. Donc je garde mon pronostic de 2-1 pour la France et j'espère que ça tiendra pour qu'on puisse faire une belle fête.
C'est noté, c'était Guillaume Belgi, donc et on remercie Vincent Nori bien sûr qui a recueilli toutes ces réactions, lui qui animait cette corrida de Courlay hier. J'ai encore quelques résultats pour terminer ce dernier sport matin dimanche de l'année avec du handball et en LBE les Celloises qui se sont imposées, qui terminent bien donc l'année avec cette victoire face à Plan de Cuques 33-29. Les Celloises gagnent une place au classement, elles sont 7e ce matin en National 1 masculine. Sachez que Pouzoges est allé s'imposer dans la salle du CPB Rennes. Pouzoges qui reste par contre 12e au classement. Et puis en National 1 féminine, défaite des Montcoutantaises à Mios-Bicanos. Les Montcoutantaises qui reculent de 3 places. Elles sont 9e au classement ce matin. Résultat de volleyball avec les Pexinois en National 2 qui se sont imposés face à Saint-Nazaire hier après-midi. Victoire 3-7-1 des Pexinois qui sont 3e au classement. Le rugby avec la Champions Cup et hier La Rochelle qui est allée s'imposer, le champion en titre qui s'est imposé à Ulster 36-29. Les Rochelais qui sont premiers de la poule. Et puis des matchs cet après-midi avec en National 2 les Niortais qui vont jouer à Anglette, duel entre le Dauphin et son leader régional 2 Pays de la Loire. Notez que Thouars accueille Chemillé, et puis en Régional 3 Mel accueille Grand Châtellerault Pleumertin. Un dernier mot pour vous parler tennis de table avec un match qui se jouera ce soir pour la Romagne en Pro A. La Romagne qui va jouer à Cergy Pontoise et en cas de victoire, eh bien la Romagne prendrait la première place avec le titre honorifique de champion d'automne. Voilà pour ce dernier sport matin dimanche de l'année que vous allez pouvoir retrouver bien sûr dans quelques instants en podcast sur notre site colline-laradio.fr. Vous retrouvez aussi l'essentiel de ce sport matin dimanche dans la rediff à 13h. Pas de résultat hein, ce soir, très peu de rencontres ce week-end en raison bien sûr de la finale de la Coupe du Monde. Retour donc de nos émissions sportives dominicales. Rendez-vous le 8 janvier. Je peux déjà vous dire que ce sera avec Vincent et Hugo. Toute l'équipe des sports de Colline se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne finale et allez les Bleus.